Radio Kapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
La conduite à tenir en cas de noyade, de plus en plus, on signale des cas de ce type dans les piscines familiales et même dans certains cours d'eau du pays. Il y a des gestes à faire pour éviter d'être entraîné par celui qui se noie et bien souvent, le problème part des personnes qui meurent parce qu'elles ne savent pas nager. Et nous en parlons avec Jean-Théodore Effoloté, responsable du département de la gestion catastrophe à la Croix-Rouge, qui est en ligne. Bonjour monsieur Jean-Théodore.
Bonjour madame.
Quelle est la première chose à dire à tous ceux qui ne savent pas nager car tout part de là.
Ouais, merci madame de l'opportunité que vous nous offrez de partager avec les auditeurs de la radio Capi que nous saluons en passant. Parler de la noyade nous amène d'abord à réfléchir sur ce que l'asphyxie et de dire un mot sur l'arrêt respiratoire. Parce que la noyade comme telle, on peut être plongé dans une profondeur d'eau. Même l'eau que vous prenez à la maison, si vous prenez pas ça correctement, ça peut vous causer une noyade que nous appelons au niveau de la croix, où ça veut dire le fait que le système respiratoire est bouché. Noyade comme telle, c'est un accident que connaît un sujet dont les voies respiratoires sont obstruées par un liquide. N'importe quel liquide, dans un fleuve, une rivière, dans un lac, à la maison, dans la piscine, lorsque le liquide bouche la voie respiratoire, nous parlons de noyade à la Croix-Rouge. Alors, parce qu'il y a un problème au niveau de la voie respiratoire, je me laisse rappeler aux auditeurs, madame, que la respiration est une activité du corps humain qui est inconsciente.
Mais
l'air entre par les nez, ou même par la bouche selon les circonstances, passe par la gorge et descend vers le poumon. Pour que la respiration soit possible, ce passage doit toujours rester libre du nez jusqu'au poumon. Allez-y.
081-890-63-94, c'est ce numéro auquel vous pouvez appeler pour participer en direct à cette émission si vous avez des questions à poser. Ou vous pouvez simplement nous envoyer un SMS au 081-070-20-50. Monsieur Théodore Effoloté, est-ce qu'on peut savoir quels sont les gestes alors à faire en cas de noyade, que ce soit juste par un liquide à la maison ou bien dans un cours d'eau ou bien dans une piscine? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu?
Oui, je voudrais d'abord continuer à expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration et on va arriver à ça. Il faut qu'on comprenne quels sont les problèmes qui sont posés lors de la noyade. Madame, le centre de commande de la respiration est situé dans le cerveau. L'air contient de l'oxygène qui fait vivre l'être humain. Si une personne cesse de respirer, même pendant 3 minutes, le cerveau commence à subir des dommages. Aussi longtemps qu'il y aura arrêt respiratoire, les chances de récupération de la victime deviennent réduites.
Et ça, c'est à partir de 3 minutes, c'est ça?
Oui, j'ai dit, même pendant 3 minutes, lorsque... Essayez là où vous êtes au bureau, essayez de cesser de respirer pendant 3 minutes. On va nous appeler rapidement.
Mm-hmm.
Et l'asphyxie est donc cet accident que connaît un sujet dont les voies respiratoires sont bouchées par un corps étranger. Et ici, le corps étranger, ici,
c'est
l'eau.
Mm-hmm.
Il y a deux problèmes. Il faut que les auditeurs comprennent quels sont les problèmes de telle manière à nous permettre que les solutions que nous allons proposer ou apporter viennent résoudre ce problème-là. Le tout premier problème, c'est la voie respiratoire qui a un corps étranger. Et le deuxième problème qui est la conséquence, c'est l'arrêt de la respiration.
Mm-hmm.
Alors, la noyade n'entraîne pas nécessairement la pénétration. Il ne faut pas chercher à avoir une grande quantité d'eau ou tout ça. Même la petite quantité, la quantité infime d'eau que vous prenez maladroitement à la maison, ça peut vous causer un arrêt respiratoire, une asphyxie.
Jean-Théodore Effoloté, nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes responsable du département en gestion des catastrophes à la Croix-Rouge. Nous avons déjà un auditeur qui est en ligne et qui aimerait bien vous poser une question. Il s'agit de Jean Dambosch de Colouésie. Bonjour Jean Dambosch.
Bonjour, merci. Ma préoccupation est celle-ci. Hein. Est-ce qu'on peut très bien se sauver en cas de noyade, même si on n'a pas un équipement bien approprié, on a géré surtout nous, nous ne savons pas bien nager. Est-ce qu'on peut bien se sauver dans ces cas-là?
Lorsqu'on ne sait pas nager et on est noyé, mais s'il n'y a pas de sauveur, c'est la mort qui s'ensuit. C'est comme ça qu'un peu vers la fin, nous allons donner un certain nombre de conseils.
Oui.
Pour les gens qui ne savent pas nager, pour les gens qui sont malades, par exemple, les gens qui souffrent de diabète, les gens qui ont des problèmes d'épilepsie, est-ce qu'il faut vraiment aller nager lorsqu'il n'y a pas d'autres personnes à côté de vous? On va arriver à ça.
Oui. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, par exemple, qui se trouvent face à une situation où une personne vient de faire un arrêt respiratoire durant 3 minutes, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Il y a la réanimation, madame.
Mm-hmm.
Si on a connu un arrêt respiratoire à cause d'un élément étranger, d'un corps étranger dans la voie respiratoire. Avant de réanimer pour remettre la respiration à la victime, il faut d'abord dégager cet élément étranger. Donc il y a des positions qui permettent, si c'est l'eau qui a bouché la voie respiratoire, il faut d'abord dégager l'eau. Et on va arriver, quelles sont les positions qui permettent pour nous, les secouristes, quelqu'un qui a connu l'asphyxie parce que il a pris une quantité d'eau, il y a des positions qu'il faut placer la victime, il y a des exercices qu'il faut soumettre à la victime pour évacuer l'eau. Dès que l'eau est évacuée, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a deux problèmes, il y a la présence d'un corps étranger et il y a l'arrêt respiratoire. Il faut d'abord commencer par soustraire le corps étranger qui empêche la circulation de l'air. À la suite, il faut réanimer la victime pour remettre le système respiratoire.
Et dans quelle position il faut mettre, par exemple, quelqu'un qui s'est noyé dans un cours d'eau?
Ok. Est-ce qu'il s'agit d'un enfant? Est-ce qu'il s'agit d'une personne adulte? Si c'est un enfant que vous pouvez porter, une personne adulte prend l'enfant victime, couche l'enfant en position dorsale, en position ventrale. Ça veut dire que vous tournez l'enfant, le visage est tourné vers la terre,
mm-hmm.
Vous mettez son ventre sur vos genoux, des petits mouvements légers permettent d'évacuer l'eau que l'enfant a avalée.
Oui.
Et dès qu'on se rend compte qu'on a sorti une quantité d'eau, maintenant il faut remettre l'enfant à la position dorsale pour exciter la respiration. Et là, il y a une deuxième phase d'activité à faire, c'est la réanimation qui se fait de bouche à bouche ou de bouche au nez.
Et est-ce que vous pouvez expliquer simplement comment est-ce que ça se fait?
Très bien. Est-ce que je peux continuer la personne adulte?
Oui, pour la personne adulte.
Ok. Pour la personne adulte, une personne qui est noyée, pour nous, nous avons parmi les règles dans la sécurité. Ça veut dire, vous ne savez pas nager, il ne faut pas oser aller récupérer une personne qui est dans un fleuve ou dans une rivière. Vous risquez vous-même de chavirer. Vous vous exposez vous-même. Et là, la première chose, c'est comment récupérer la victime qui est dans l'eau, l'amener sur la surface de la terre. Et là, la conduite à tenir, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une pirogue à côté? Les pagayeurs peuvent aller récupérer la personne. S'il n'y a pas de pirogue, vous utilisez les histoires que nous utilisons régulièrement, soit un bidon d'eau vide bien fermé, vous jetez et la victime s'accroche au bidon, soit c'est une chambre à air, soit ça peut être une perche, une corde, des choses comme ça. Parce que la première étape, c'est qu'il faut que la personne quitte l'eau et vienne à la surface de la terre.
Mm-hmm.
Maintenant, deuxième étape, il a avalé sûrement de l'eau. Il peut avoir un ventre gonflé ou pas, mais mettez-vous en tête que le fait qu'il était dans l'eau avec son nez, avec sa bouche, au lieu de respirer, ce sont des quantités d'eau qui ont été absorbées. Maintenant, il faut chercher à évacuer l'eau. Première chose, vous mettez la personne à la position ventrale. Il est couché sur la terre, son ventre en contact avec le sol. Ce petit mouvement permet à la personne de sortir l'eau qu'il a avalée. Ça, mm-hmm. C'est la première position. Deuxième position, vous pouvez mettre la personne en position dorsale. Maintenant, vous soulevez légèrement ses jambes. Vous exercez ses jambes, vous les agenouillez vers le ventre. Des mouvements légers mais réguliers comme ça, ça permet, lorsque vous êtes en train de faire ça, ça bouscule le ventre et ça fait sortir l'eau.
Mmh.
Dès que vous vous rendez compte qu'il y a une quantité d'eau qui est sortie, maintenant vous rentrez à ce que j'avais dit pour le cas de l'enfant, la réanimation pour remettre la respiration. Et c'est toujours le système bouche à bouche ou bouchonnée.
Monsieur Jean-Théodore Effoleté, nous vous signalons qu'il y a déjà deux autres auditeurs qui sont en ligne et qui ont des questions à vous poser. On va les prendre. Il y a Jean-Marie de Combove et puis il y a Jacques de Gaumont. On va commencer par Jean-Marie de Combove. On va prendre les questions en même temps et puis on va vous laisser le temps de répondre à ces questions-là. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole.
Ok, merci. Je voulais juste poser la question à l'intervenant. Et si, par exemple, je suis en train d'assister à une personne qui est beaucoup plus robuste que moi, cette personne est en train de se noyer, je la vois. Mais quelle est la tactique qu'il faut utiliser? Parce que bon, ben, de peur que nous tous nous puissions être victimes, quoi. Quelle est la tactique qu'il faut utiliser? Parce que si je vois en face de moi une personne robuste, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions pas être nous tous des victimes?
Mm-hmm. On va prendre Jacques de Gaumont en même temps et puis on va répondre, on va laisser le temps à monsieur Jean-Théodore de répondre. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour. Bonjour madame la journaliste.
Vous avez la parole Jacques.
Oui. Merci. Ma question est celle-ci. J'ai des questions vraiment majeures. Et la toute première, vous savez que nous en avons marre justement avec les critères de noyade. Par exemple, ici chez nous, dans la ville de Goma, la ville touristique, nous avons le lac qui est tout proche de chez nous. On ne sait comment s'y prendre. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'à l'RDC, il existe cette notion de noyade? Et puis, où que notre invité nous franchise? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, madame la journaliste, et en cas de noyade, est-ce que si la personne en question, l'individu, se bloque les nez et la bouche, est-ce que dans l'eau, il peut toujours noyer ou pas? À vous la parole.
Monsieur Jacques, pour la première question, vous demandez s'il y a un service qui s'occupe de cas de noyade en RDC, c'est ça?
Donc, qui apprennent déjà à
nager.
Ah, ok. Ça, la notion de natation.
Ok, je n'avais pas compris. Monsieur Théodore, Jean-Théodore, il faut le dire à vous de répondre.
Merci pour les auditeurs. Apprendre aux gens à nager, j'ignore s'il y a un service comme ça dans notre pays. Moi, je suis secouriste. Mon travail, c'est lorsqu'il y a détresse, lorsqu'il y a accident, lorsqu'il y a noyade, comment amener la personne à la vie? Comment empêcher la mort? Et ça, mon travail comme secouriste. Alors, franchement, je n'ai pas d'informations s'il y a une structure dans le pays qui apprenne les gens à nager. Il y a le premier intervenant qui voulait savoir quelle conduite à tenir lorsqu'on a affaire à une personne robuste, ça veut dire qui vous dépasse en poids. La première règle, c'est la sécurité. Secourir sans périr. Vous ne pouvez pas secourir quelqu'un qui... Avec cette bonne volonté, la personne vous amène vous-même aussi à la mort. Et je vous avais dit tout à l'heure, lorsqu'il y a quelqu'un, on est en train de voir une personne en train de chavirer dans un fleuve, dans une rivière ou un lac, comme l'ami qui a parlé de Nord Kivu, il y a un matériel que vous devez utiliser. Est-ce qu'il n'y a pas de piroguiers là? Est-ce qu'on ne peut pas avoir même les dames qui nettoient la vaisselle, un bidon vide qu'on peut jeter pour que la personne s'accroche pour se ramener à la surface? Vous n'avez pas le même poids, vous ne savez pas nager, lui il est en situation difficile, il va s'accrocher sur vous et tout l'été, vous êtes parti.
Donc il est préférable que les personnes, de jeter quelque chose, un objet, soit un bidon à la personne qui est en train de se noyer. Si la
ça
personne
peut être
est
un bidon, ça peut être une corde, ça peut être une perche si n'est pas loin, un bâton qui peut atteindre la personne victime. Pour la ramener à la surface.
Alors, Monsieur Jean-Théodore Effoleté, vous êtes responsable du département gestion des catastrophes à la Croix-Rouge. Nous rappelons aux auditeurs qui ont envie de participer. Vous pouvez faire le 081-890-6394 pour participer à cette émission directe ou nous envoyer un SMS au 081-070-2050. Alors, pour tous ceux qui vont, par exemple, puiser de l'eau dans les cours d'eau, on entend souvent que les enfants sont noyés. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents de dire à ces enfants-là?
Merci, madame. Vous parlez de cours d'eau. Je vais ajouter les piscines privées. S'il y a noyade, s'il y a mort d'homme à ces occasions-là, c'est d'abord parce que quand je parle des piscines, quand je parle même des embarcations que nous voyons, moi j'habite Kinkole et de temps en temps je descends au fleuve et je vois les bateaux circuler. Est-ce qu'il y a une réglementation? Est-ce qu'il y a un système d'alerte précoce dans un bateau? Madame, je veux parler d'un sujet très important. Vous voyez, lorsque nous montons dans les avions, il y a les jolies dames là, les hôtesses qui nous disent, voilà, il y a des issues de secours. Ce genre de situation, on devait le connaître même dans le bateau.
il y a un transporteur qui prend un nombre de personnes. Vous devez vous réunir de toutes les garanties pour mettre ces gens à l'abri de tout danger. On ne sait pas quand est-ce qu'un accident peut arriver. Mais voyez d'abord de quelle manière on est en train de charger les bateaux sans réglementation ou sans respect de la réglementation.
Ces bateaux-là devraient avoir des canaux de sauvetage, c'est bien ça.
Par exemple, il n'y a pas de réglementation. Et aussi, lorsque vous êtes à bord d'un bateau, il n'y a pas un système d'alerte qui informe les gens, voilà, lorsqu'il y a ça, voilà ce que vous allez faire. Et on charge même les bateaux de manière à empêcher qu'il n'y ait pas de petites voies d'évacuation. Ce sont des problèmes. Donc, ce dispositif de sauvetage doit être une règle d'or.
Ça, c'est par rapport à l'État. Je pense que les autorités sont en train de nous suivre. Mais par rapport aux parents qui sont dans les villages et qui n'ont que l'eau de la rivière.
Je réponds à ça, madame.
Oui.
Vous envoyez des petits enfants dans une source. Et les enfants sont toujours curieux. Lorsque je me réfère, par exemple, à un problème qui est sous procès aujourd'hui, des jumeaux qui sont morts. Ça veut dire, on peut même se dire que les enfants étaient curieux, ils veulent bien voir, mais qu'est-ce qui se passe ici, que je ne peux pas arriver là-bas. Il en est de même lorsqu'on envoie les enfants seuls dans les sources d'eau. L'enfant va dire, ah, j'ai vu cette larve, où il y a tel fruit là, où il y a ça là. Il veut oser alors que l'eau a une profondeur. L'enfant est parti. Donc là, il y a une responsabilité des parents. Les parents doivent contrôler les enfants. On ne peut pas envoyer des petits-enfants dans une source d'eau quand c'est qu'il y a une eau profonde. Vous exposez les enfants. Voilà.
Donc ça, c'est l'exposition. Bon, pour ceux, par exemple, qui sont, il y a des endroits, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'aller se baigner dans les lacs ou les rivières du pays, il y a des endroits où les gens se noient justement parce qu'ils ne connaissent pas qu'à tel endroit, c'est un peu plus profond, ou bien la chute est tellement brutale que beaucoup veulent avancer et puis tout d'un coup, ils se retrouvent à 2 ou 3 mètres de profondeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités, par exemple, qui se trouvent dans les milieux où il y a de tels cours d'eau?
Il y a un service important qui est en train de prendre place chez nous, c'est la protection civile. Je suis allé moi-même au dernier trimestre, l'année dernière, former un corps de la protection civile dans le Nord Kivu. Et ici, je demande aux autorités qui est la protection civile dans toutes les provinces, dans tous les territoires. Ce corps a un rôle important à jouer. Parce que à tout moment, les secouristes ne seront pas là où il y a problème. Et même si je parle de la protection civile, est-ce que ces gens seront toujours présents dans un lac, dans une source d'eau, où quelqu'un va pour se laver et puis il veut aller à quelques 5 mètres, voir si c'est bien nagé? Ici, aux individus, aux personnes, nous en appelons à la prudence. Vous ne savez pas nager. Si vous êtes allé vous baigner dans une rivière, dans un fleuve, restez à la rive, baignez-vous, lavez-vous et quittez les lieux parce que l'eau, c'est le danger permanent.
Jean Tedon, nous avons d'autres auditeurs. Il s'agit de Winston Dissiro, mais également Michel de Mbujima. Et on va prendre Winston. Bonjour.
Allez, c'est bon. J'ai une petite question. Il y a un naufrage, par exemple, hein, un bateau qui commet un accident. Est-ce que les gens se noient comme ça? Dans 5 ou 10 minutes, on peut récupérer les victimes si on les récupère. Ils peuvent encore être réanimés et les récupérer en vie.
Vous parlez au même moment qu'il y a un enfant à côté de vous, j'ai pas suivi la question.
Il demande, il parle des bateaux qui connaissent des cas de naufrage. Donc les personnes se noient, faisons 5 minutes. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ces personnes-là?
Il y a moyen de récupérer
les
gens,
personnes qui sont restées 5 minutes sous l'eau.
Les personnes ne peuvent pas mourir lorsqu'il y a naufrage. Il y a ceux qui vont en profondeur de l'eau et vous allez récupérer le corps 2 ou 3 jours après. Il y a ceux qui... Bon, madame, il faut que je vous parle qu'il y a des phases de noyade. Il y a une première phase que nous appelons aquastress. Pendant cette phase d'aquastress, la victime est seulement paniquée. Il a des gestes désordonnés, il se bat. Et assez souvent, il n'a que la fatigue, peut-être un peu de bouchon à cause de quelques gouttes d'eau. Cette phase n'est pas dangereuse. La deuxième phase que nous appelons la petite hypoxie. La victime commence à s'épuiser. Elle est toujours à la surface de l'eau, toujours consciente, il y a la conscience, mais elle a déjà inhalé ou bu plusieurs fois de l'eau. Donc c'est une deuxième phase, et dans cette phase-là, il est aussi possible de récupérer la victime. La troisième phase de la noyade, que nous appelons grande hypoxie, la victime ne se maintient plus sur la surface, il commence à chavirer, il commence à descendre. Elle est complètement épuisée. En ce moment-là, il ne sait même pas poser un geste.
Mm-hmm.
Il a pris beaucoup d'eau et la victime est de moins en moins consciente.
Mm-hmm. Alors, 5 minutes sous les eaux, est-ce qu'il y a moyen de récupérer quelqu'un?
Moi, je vous ai dit, 3 minutes déjà, ça commence à poser problème parce que le cerveau connaît déjà des dommages.
Mm-hmm.
Et quand on arrive à 5 minutes, ça veut dire que là, il faut vraiment faire le maximum de gestes possibles. Parce que, je vous ai dit, lorsqu'il y a noyade, on a avalé l'eau qui a empêché la circulation de l'air. Deuxième cause, la conséquence de ce bouchon-là, c'est l'arrêt de la respiration.
Mm-hmm.
Et il y a une troisième conséquence, c'est même l'arrêt cardiaque.
Okay.
Et alors maintenant, il faut vous déboucher la voie respiratoire, vous cherchez à remettre la respiration. Est-ce que le cœur va recommencer à battre pour que le sang circule? Ce sont des situations que nous connaissons. Il y a des cas où vous pouvez remettre la victime à la vie, mais il y a des cas de fatalité.
Michel de Mbujimayi avait également une préoccupation. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Ok, j'ai trois petites préoccupations. La première, je voudrais savoir, après combien de temps exactement, en cas de noyade, bien sûr, la mort peut intervenir. Et puis la deuxième préoccupation, comment reconnaître que la personne est décédée par noyade? Par exemple, si vous trouvez un cadavre dans l'eau, et puis comment reconnaître que la personne là est décédée par noyade? La troisième préoccupation, comment expliquer les mécanismes physiopathologiques de cette mort? Donc, quand la personne avale de l'eau, comment nous pouvons expliquer ce mécanisme? Donc, le mécanisme physiopathologique de la mort.
Monsieur Jean-Théodore.
Madame, vous avez invité le responsable de la Croix-Rouge qui s'occupe de la gestion des catastrophes.
Mm-hmm.
Je vous informe en passant que je ne suis pas médecin.
Oui.
Moi, je suis secouriste.
Mm-hmm.
Il y a des questions spécifiques telles que mon interlocuteur tout à l'heure vient de poser. Ce sont des questions qu'il faut poser aux médecins qui connaissent le corps humain. Pendant combien de temps on peut rester en arrêt, sans respiration, sans mouvement cardiaque.
Mm-hmm.
Pour moi, secouriste, c'est quelqu'un à une noyade. Il y a un corps étranger qui a bouché la voie respiratoire, il ne respire pas. Comment le secourir et le ramener à la vie? Donc, si d'autres questions peuvent être posées aux médecins, je crois qu'il y aura contribution positive.
Et c'est par ici que nous allons boucler cette partie de l'émission. Merci à vous, Jean-Théodore Effoldeté. Vous êtes responsable du département gestion catastrophe à la Croix-Rouge. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Merci, madame.